avec vous ces moments de louange, ces moments d'enseignement, ces moments autour de la parole de Dieu. Effectivement, j'étais pasteur à Paris. D'ailleurs, Marie-France faisait partie de notre famille dans le 14e arrondissement de Paris. Voilà, et je ne l'ai pas vue depuis. Mais actuellement, je suis pasteur en Corse. Voilà, c'est juste au sud-est de Nice. Nice, c'est une porte au continent français, enfin au continent européen, mais au pays de France pour nous. Et je suis là depuis 38 ans, donc on est bien intégré dans la culture corse, que nous apprécions énormément. Et c'est une joie d'apporter l'évangile aux Corses. Nous ne sommes pas beaucoup à être pasteur en Corse, il y a un grand besoin, et donc c'est un privilège de le faire. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le salut, et donc une variante du salut, c'est celui de notre responsabilité de proclamer le salut. Et donc, vous avez, dans vos études et dans vos cultes, appris ce que c'est que le salut. Et maintenant, il vous appartient de le faire connaître à ceux de votre entourage. Les distractions coûteuses. Savez-vous que le chrétien peut être distrait et que cela peut lui coûter énormément? Les distractions coûteuses. Je vais me baser sur un passage, on y reviendra tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais juste vous citer le verset qui va inspirer notre prédication de ce matin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Déjà à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission qui nous est donnée à tous, celle d'être des témoins de Jésus-Christ. Mais nous pouvons être distraits de cet appel qui nous est adressé. La distraction, c'est un sujet qui a été traité dans des films. C'est aussi un sujet donc qui a été illustré par un film où Jacques Dupont, avec Jean-Paul Belmondo, dans le film Distraction, qui est sorti en 1960, a parlé de ces hommes qui étaient liés d'amitié pendant la guerre d'Algérie. Deux anciens parachutistes qui se trouvent maintenant dans le civil. L'un, Paul est journaliste. Il vient à l'aide de l'autre, Laurent. Pourquoi ? Parce que Laurent est recherché pour meurtre. Paul cherche à cacher Laurent pour le protéger. Mais plus tard, Paul trouve l'amour et oublie que Laurent est un ami très proche et qu'il n'a plus la protection qui lui avait été promise. Alors il est certain que le sujet ne nous intéresse pas particulièrement, mais c'est simplement pour illustrer le fait que on peut être distrait au point où quelque chose qui était d'une grande importance auparavant, tout à coup, disparaît. Et c'est bien possible que quelque chose qui, à un certain moment donné, était très précieux, capital pour vous, aujourd'hui est disparu. Mais c'est une distraction qui est coûteuse. Que veut dire une distraction? C'est le manque d'attention, ce qui nous empêche de réfléchir, de prêter attention, ce qui détourne notre attention de ce que nous devrions faire. Où est-ce que nous voyons les distractions dans notre société? Eh bien, principalement au travail, ce que nous disent ceux qui ont étudier la question, ou bien encore la faim peut nous distraire, et on le comprend bien. De toute façon, si je prêche jusqu'à 14 heures, vous aurez faim et vous m'écouterez plus. Donc, c'est pas la peine. Les problèmes affectifs créent la distraction. Les vacances, les questions existentielles également. Enfin, nous sommes distraits par toutes sortes de choses. Les statistiques nous révèlent que la distraction est responsable pour 80% des accidents. Les accidents au volant. Les sources de distraction quand on est au volant, malheureusement, on ne veut pas les culpabiliser, mais les bébés, 8 fois plus que les adultes, les enfants en bas âge, 4 fois plus, et là, vous comprendrez, les portables, 23 fois plus. Oui, mes amis, les distractions sont des choses qu'on cherche parce que ce sont des plaisirs ou bien ça nous permet de vivre autrement, mais il faut toujours se méfier des distractions. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous méfier des distractions. Paul Graham n'est pas un prédicateur, c'est un scientifique de l'informatique, né en 1964. Il est diplômé de Harvard. Il dit ceci, « La distraction n'est pas un obstacle statique, c'est-à-dire qui ne bouge pas comme un caillou sur la route que vous pouvez éviter. Les distractions viennent vers vous et vous poursuivent. » Donc s'il n'y a pas d'effort pour éviter la distraction, vous serez distrait. Parce qu'elles vous poursuivent, elles me poursuivent. Je dirais que même qu'il y a des choses légitimes dans la vie qui peuvent nous distraire et nous empêcher de ce qui est encore plus important. Il y a des distractions qui peuvent être tirées de la Bible pour nous distraire par rapport à ce que nous devrions faire. Des questions, des discussions, des désaccords. Et nous sommes tellement pris dans cela que nous oublions la raison pour laquelle nous sommes encore ici sur terre. Je lis un passage tiré de l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul dit « Je leur rends témoignage, je vous donnerai la référence à la fin, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence. On peut aimer Dieu de tout notre cœur et être distrait. Et là, on aime Dieu sans intelligence. Un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Alors, permettez-moi ce matin d'attirer votre attention sur 3 soucis dans le passage que nous lirons ensemble qui soulignent les dangers de la distraction. Les dangers de la distraction. Alors prenons Actes chapitre 1. La référence donc de la citation que je viens de faire est Romains chapitre 10 verset 2. Alors en Actes chapitre 1, c'est notre passage principal qui fera l'objet de toutes nos pensées ce matin. Actes chapitre 1 est un passage que vous connaissez certainement très bien. Mais peut-être n'avez-vous jamais vu la notion de distraction dans ce passage. Elle n'apparaît pas à première vue. Et pendant des années et des années, je ne l'avais pas vu non plus. La distraction. Actes chapitre 1, je commence la lecture au verset 8. C'est Jésus qui parle, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Reprenons maintenant le passage en lisant des versets dans le contexte. Les apôtres, au verset 6, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas pour vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. » Il le reprend avec une certaine sévérité. N'est-ce pas légitime de demander au Seigneur, lui qui sait toutes choses et qu'on a accompagné pendant 3 ans maintenant, qu'on a écouté, on a été enseigné, mais il nous reste cette question, ce n'est pas la première fois qu'il pose la question. N'ont jamais été vraiment satisfaits par la réponse. Alors ils disent, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras ton royaume? Et il dit, ce n'est pas pour vous de le savoir. Pourquoi cette réponse? Je vois un peu plus tard dans le passage. Alors là, c'est le souci des disciples. Est-ce à ce moment-là que tu rétabliras ton royaume? Et puis, il y a le souci de Jésus. La façon dont il leur répond la question, répond à leur question. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ça, c'est mon souci. Et un peu plus loin, nous verrons le souci des anges. Le souci des anges. Je lis au verset 9. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée les déroba leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel ?» Il s'adresse aux disciples. « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Parlons du souci des disciples. La réponse de Jésus, ce n'est pas à vous de connaître les temps. On peut se dire, mais c'est une question légitime parce qu'elle est de nature spirituelle. Elle est de nature doctrinale. Et peut-être que c'est à ce moment-là que tu le feras. Mais Jésus savait pourquoi il posait la question. Parce que le jour où, et surtout si c'était à ce moment-là qu'il établirait son royaume, eux seraient ses bras droits. Ministre de ceci, ministre de cela, ils régneront avec lui. Alors, ils attendaient depuis 3 ans, puisqu'il parle du royaume. Et ils attendent depuis 3 ans, et maintenant, il leur dit qu'il va s'en aller. Oh non ! Il est déjà parti une première fois. Quand il est mort sur la croix, il a été enseveli. Et ils ont eu l'impression que tout ce qu'il a enseigné, toutes les promesses, eh bien, se sont écroulées. On ne le voit plus, il ne s'agit plus de royaume, il est mort. Mais le premier jour de la semaine, le voilà, un espoir pour ce royaume, il va venir établir le royaume, mais il nous parle de quitter encore une fois. Mais il dit, je reviendrai, alors est-ce à ce moment-là que tu le feras, puisque tu ne l'as pas encore fait? Préoccupé par autre chose. Mais ils n'ont pas écouté la mission qu'il leur a donnée et qu'il répète ici, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Ils étaient distraits par quelque chose de légitime. Le retour de Dieu, le royaume de Dieu, c'est légitime. Mais ils étaient distraits au point où ils ont oublié ce à quoi il les a appelés. Quand nous sommes distraits, nous posons des questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse. Soulignez-le. La distraction fera en sorte que vous poserez des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Ça ne fait que cultiver la déception dans la vie d'un chrétien. La distraction, nous le voyons aussi, fera en sorte qu'on attende aujourd'hui ce qui n'arrivera que plus tard. Alors, le retour du Seigneur pourrait être avant la fin du culte. et donc on l'attend, mais pas au point d'être distrait en se disant « ben, le Seigneur revient aujourd'hui, sans doute, alors bon, on va quand même vendre nos maisons, vendre nos voitures, nous débarrasser de tout cela, parce que demain on sera au ciel, peut-être même plus tard aujourd'hui, on sera au ciel. » Il y a des sectes qui ont fait cela. Oui. Non ! Si le Seigneur revient aujourd'hui, eh bien, dès la fin du culte, on devrait partir évangéliser. Hein, c'est dans ce sens, puisque c'est notre mission principale. Si notre mission, c'était avant tout d'adorer le Seigneur, on va le faire pendant toute l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas adorer, il nous appelle à le faire sur terre aussi. Mais on va le faire pendant toute l'éternité. Mais le salut des âmes, une fois qu'on s'en va, c'est la fin. L'Église est la lumière du monde. L'Église est le sel de la terre. Il n'y a pas d'autre sel, il n'y a pas de lumière, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église doit rayonner le message du salut. Donc attendre aujourd'hui ce qui n'arrivera que plus tard, et être distrait par cela, au point où on n'est plus la lumière du monde. Ou bien, se focaliser sur l'inconnu et rater le meilleur pour aujourd'hui. Se focaliser sur ce qu'on ne comprend pas ou ce qui n'est pas révélé. Et par cela, vous allez voir plus tard, ils ont failli rater le meilleur de ce que Dieu avait promis pour eux, de ce que Jésus avait préparé pour eux. Quels sont nos soucis? Ceux qui nous distraient, la famille, l'emploi, la retraite, la politique, les plaisirs, l'épanouissement personnel. Mais il y a une cause qui est plus noble, plus importante, plus urgente encore que ces choses. Nous devons gérer nos soucis, mais nous rappeler que nos soucis ne doivent pas devenir une distraction comme il l'était pour le disciple, pour les disciples, les soucis. Je vous rappelle la phrase de l'apôtre Paul. Je leur témoigne qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Remarquons maintenant, venons au passage concernant les anges. Remarquons le souci des anges. Je dis le souci des anges parce que les disciples avaient reçu ce que Jésus vient de leur dire, hein, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Et là, ils vont, ils l'accompagnent, ils le voient disparaître dans les nues et aller au ciel. Et ils attendent. Ils attendent. C'était pas peu de temps, sinon les anges ne se seraient pas dérangés. Ils attendent. Ils attendent. Il a dit qu'il reviendra, il pourrait revenir tout de suite. On voudrait bien qu'il revienne tout de suite. On a essayé de lui faire comprendre par notre question qu'il avait besoin de revenir tout de suite. Et ils attendent. Oh, il fait patienter. Ils attendent. Et les anges doivent avoir l'impression qu'ils attendraient là pendant longtemps. Parce qu'ils leur disent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et ce qu'ils ont retenu de ce que les anges aient dit, la façon dont les anges les ont repris, on le voit dans le verset suivant où il dit, cependant, ils retournèrent à Jérusalem. Et oui, Jésus a dit, vous irez à Jérusalem. Aller être témoin à Jérusalem. Mais eux, ils attendaient le Seigneur, là. Voyez, on trouve toujours des façons d'interpréter, selon nos désirs, nos aspirations, ce que Jésus dit. Parce que ces choses sont des distractions. Nous sommes une distraction pour nous-mêmes. Le souci des anges. Pourquoi vous arrêtez-vous pour regarder au ciel? Vous dites, mais c'est bien d'attendre le retour du Christ. C'est vrai. mais pas en attendant sur la montagne, en regardant vers le ciel. On a autre chose à faire. Il nous a donné une mission. Et ils ont compris. Et mes amis, nous aussi, nous avons souvent besoin de, et j'utilise cette phrase comme expression tout simplement, retourner à Jérusalem, c'est-à-dire là où il nous a envoyés pour être des témoins. Même la théologie peut être une distraction. Si vous ne le savez pas, j'ai le regret de vous informer que souvent, les pasteurs ont des débats de théologie, et c'est normal, c'est leur domaine d'expertise. Mais je crois que parfois, ces débats deviennent une distraction. Et qu'on passe moins de temps dans l'évangélisation que dans les débats théologiques. Et là, il y a un problème. Vous dites, tu ne penses pas qu'on devrait trouver les réponses ? Oui, oui. Mais quand ça nous égare de la mission qui nous est donnée, c'est-à-dire l'évangile, la lumière du monde, ça devient un problème. Notre mission première, c'est, comme le dit Jésus, d'être des témoins. De toute façon, la Bible ne cache pas qu'il y a des mystères. Ce qui veut dire qu'on est obligé de ne pas comprendre certaines choses de la Bible. D'ailleurs, Pierre dit concernant Paul, il y a des choses très difficiles à comprendre. Les apôtres le savaient aussi. Il y a un pasteur qui a dit une fois, « Je suis tellement occupé à tenir compte des choses que je comprends de la Bible que je n'ai pas besoin de comprendre plus que cela. » Et vous savez, si on peut comprendre le plus simple, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Le jour où vous aurez accompli parfaitement ces deux commandements, eh bien, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ce qui est un mystère par la volonté de Dieu. Et la Bible a été écrite, pas avant tout, ça risque de vous surprendre, pas avant tout pour les théologiens, mais pour le peuple. La Bible a été écrite pour le peuple. Donc, le rôle du théologien est très important, parce qu'il y a certaines richesses qu'on ne connaîtrait pas autrement. Mais ce n'est pas ça qui va changer notre raison d'être sur Terre. Ce n'est pas ça, cet éclairage supplémentaire qui va enrichir d'une façon indispensable notre compréhension de la Bible. Faisons déjà ce que nous comprenons et soyons préoccupés par notre mission. Évitons les distractions. Les débats, les discussions sont importantes du moment qu'elles ne sont pas une distraction. Voilà ce que je suis en train de dire. Et puis le souci de Jésus, le souci des disciples, est-ce que tu vas revenir à ce moment-là ? Le souci des anges, qu'est-ce que vous faites encore à attendre ? Le souci des disciples, de Jésus, pardon. Jésus les reprend, comme on l'a dit dans ce verset 8. Le verset 7, il pose la question. Verset 6, il pose la question. Verset 7, Jésus répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés par sa propre autorité, mais... » Alors, quand ces deux phrases sont liées par le mot « mais », c'est que ce qu'il va dire est encore plus important. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » Mais, écoutez mes amis, est-ce que vous pouvez imaginer ce que les disciples auraient raté s'ils n'étaient pas été à Jérusalem ? C'est à Jérusalem que le Saint-Esprit est venu. C'est à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, que la période de l'Église de Jésus-Christ a commencé. C'est à Jérusalem que pendant quelques jours seulement, 5000 personnes se sont détournées de leur aveuglement et se sont tournées vers Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre eux, c'est ceux qui 40 jours auparavant étaient en train de hurler « Crucifie-le ! Crucifie-le !» C'était la même foule. Et maintenant, que dois-je faire ? Que devons-nous faire ? Ben, croyez et soyez baptisés. Et 5000 personnes, dans ces quelques jours, se sont tournées vers Dieu. Je ne voudrais pas rater ça, moi. Hein ? Mais on ne sait pas. On ne sait pas. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Seigneur qui sauve. À nous d'être la lumière. Chacun dans son rôle. Vous disiez, André, mais je ne sais pas, moi. Je n'ai pas ce don. Nulle part. Est-ce que vous verrez dans la Bible le don du témoin ? Ce n'est pas un don. Hein ? Vous sortez d'ici, il y a un accident. Et vous voyez l'accident, la police arrive. Est-ce que vous avez vu l'accident ? Oui, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Alors dites-moi ce qui s'est passé. Vous êtes un témoin de l'accident. C'est pas plus que ça. Vous pouvez raconter ce que vous avez vu. Et vous pouvez raconter ce que Dieu a fait dans votre vie. Voilà. C'est être un témoin, c'est ça. Donc c'est pas si difficile que ça. Mais vous dites, oui, mais moi, je suis timide. C'est comme ça, c'est le tempérament que j'ai. Peut-être vous direz-vous, c'est même le tempérament que Dieu m'a donné, d'être timide. Je ne peux pas parler. Eh bien, mes amis, vous ne me croirez pas, mais quand je devais donner mon témoignage pour mon baptême, je n'ai pas pu parler. La bouche s'ouvrait, mais rien ne sortait. Pourtant, je l'avais appris par cœur. Je voulais bien, parce que mon père étant pasteur, il faut quand même être exemplaire qu'on est fils de pasteur. J'ai tout appris. Je le répétais, c'était formidable. Autant j'avais du mal avec les fables de La Fontaine, autant là, j'avais un mal impossible. Mon père a donné mon témoignage pour moi. Hein. Je l'avais tellement répété avec lui. Ouais. Savez-vous que ses disciples, vous le savez bien entendu, mais je vous le rappelle, ses disciples, avant la crucifixion, quand Jésus a été accaparé, ils ont fui. Peureux. Il y en a un auquel on a posé la question. Mais tu n'étais pas parmi eux, toi ? Ah non, 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 je ne le connais pas, je ne le connais pas. Hein. Pierre en plus, hein, Pierre en plus. Mais 40 jours plus tard, tous ces mêmes disciples peureux qui ont fui, eh bien, ont prêché, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, surtout quand vous témoignez, Dieu peut faire de vous quelqu'un d'autre que vous ne reconnaissez pas. Je sais moi-même que quand on m'a posé une question, pendant qu'on me posait la question, je me suis dit, André, tu ne connais pas la réponse, comment tu vas faire ? J'ai prié. Et puis après, quand c'était mon tour de répondre, j'ai répondu. Et après avoir répondu, je me suis dit, tiens, André, c'est pas mal ça. Mais c'est évident que c'était pas moi, parce que moi, je connaissais pas la réponse. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui nous donne les réponses. Mais il faut lui donner l'occasion de le faire. Le souci de Jésus, il y a quelque chose de plus important que le royaume à ce moment. Là et encore aujourd'hui, c'est que vous soyez mes témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, si vous avez envie, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, si vous êtes doué, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, si vous avez le don de parler, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, si vous avez le tempérament approprié, vous serez mes témoins. C'est un ordre, vous serez mes témoins. Son objectif, c'est de faire de chacun de nous des témoins. Et si on a du mal, il risque de nous mettre dans une situation où on sera bien obligé. Vous savez que des gens qui n'avaient jamais témoigné se sont trouvés un lit d'hôpital et ont témoigné à leurs voisins. Mais il fallait qu'ils soient à l'hôpital pour cela. N'attendez pas d'être à l'hôpital pour être témoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Mes amis, nous ne vivons pas dans un pays, même si nous ne voyons pas 5000 personnes venir au Seigneur, on ne sait pas ce que Dieu va faire. Les disciples ne savaient pas qu'en prêchant comme ça, il y aurait 5000 qui viendraient. Et nous, on ne sait pas combien viendront au Seigneur demain ou dans quelques jours. De toute façon, c'est à nous de jouer notre rôle. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu, il a dit, je bâtirai mon église. Il le fera, il le fera. Mais à nous de jouer notre rôle. Je me rappelle que, puisque mon père était missionnaire en Algérie, je suis né en Algérie, il y avait un missionnaire anglais du nom de Monsieur Marsh qui a témoigné, oui, qui a témoigné, lui, son fils et sa fille, hein, tous missionnaires en Algérie. Monsieur Marsh père a témoigné pendant toute sa vie, il n'a pas vu une seule personne venir au Seigneur. Monsieur Marsh fils a témoigné pendant toute sa vie, il a vu un enfant venir au Seigneur. Mais aujourd'hui, en Algérie, mes amis, il y a plus qui se tournent au Seigneur qu'en France. L'Église de Jésus-Christ est vivante. Pour vous donner juste une idée, j'utilise, excusez-moi si les réseaux sociaux vous contrarient. Je ne suis pas là pour propager les réseaux sociaux. Mais je voudrais vous dire comment je les exploite à la gloire de Dieu. Sur Facebook, vous pouvez acheter du temps de publicité et publier quelque chose que vous ciblez pour un endroit n'importe où dans le monde. Et j'ai fait un enregistrement vidéo. J'ai mis sur ma page. Ils appellent ça « booster » et quand vous poussez sur le bouton « booster », vous tombez sur la page commerciale. Et là, vous déterminez où vous voulez cibler la vidéo, vers quel peuple, vers quelle ville. Et selon l'argent que vous investissez, vous pouvez atteindre, on vous donne une gamme entre, par exemple, si vous mettez juste 5 euros, vous pouvez atteindre à peu près 400 personnes jusqu'à 800, 900 personnes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Mes amis, j'avais une vidéo et j'ai ciblé la ville d'Alger. Je me suis dit, je suis témoin en Corse, mais pourtant, l'Algérie, c'est mon pays de naissance. Hein. Pourquoi pas cibler Alger ? Eh bien, quand vous faites cela, Facebook vous donne le résultat dans le sens du nombre de personnes qui ont reçu la vidéo sur leur page. Elle apparaît, rien de plus, mais elle apparaît sur leur page. 17 000. Il vous donne un autre chiffre, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué, ou qui ont commenté, ou qui ont partagé. Le total de ces trois choses est revenu à près de 2000 personnes à Alger. Et on vous donne en troisième lieu le nom de chiffres qui ont partagé, c'est-à-dire ils ont visionné, ils ont aimé et ils l'ont mis sur leur propre page afin de la propager. Ce qui est risqué en Algérie. Hein. Savez-vous combien ? 60 personnes ont partagé cette vidéo sur leur propre page, avec les risques que ça peut comporter. Voilà ce que le Seigneur peut faire, et bien mieux. Et si nous sommes là, eh bien, c'est pour propager cette bonne nouvelle dans des pays où on n'a pas accès en tant que missionnaire, surtout. Mes amis, l'œuvre du Seigneur est une œuvre enthousiasmante. Alors, soyons les témoins qu'il nous donne. Je vous rappelle qu'en France, la deuxième religion de France n'est pas une religion chrétienne. Ça veut dire que nous avons du travail. Et on cible un pays loin de nous pour atteindre ces personnes quand on les a dans notre quartier. Que Dieu nous évite la distraction. Quand nous regardons autour de nous, que nous voyons des personnes qui ont besoin de la lumière de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Vous allez au supermarché, vous faites la queue. Au lieu de vous dire, quelle est longue cette queue, mais vraiment, pourquoi ils n'avancent pas? Au lieu de faire ça, regardez ceux qui sont devant vous et dites, Seigneur, ces âmes sans doute ne te connaissent pas. Et priez pour eux. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire, mais priez pour eux. On a prié pour des gens sans savoir qui ils étaient véritablement et on apprend plus tard qu'ils se sont tournés au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Vous êtes en train de conduire, vous êtes dans la circulation. Au mois de juillet, au mois d'août, ici à Nice, vous dites, c'est bien les touristes, mais bon, la vie est dure, hein? Ben, priez pour eux. Priez pour eux. Est-ce que la prière, c'est valable ou pas? Est-ce que la prière est efficace ou pas? Alors prions, prions. Ne soyons pas parmi ceux auxquels l'apôtre Paul dit, vous avez un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Baissons nos têtes et fermons nos yeux. La distraction est coûteuse. Si les disciples n'étaient pas retournés à Jérusalem, ils auraient raté Pentecôte. Ça aurait été regrettable. Mes amis, fuyons les distractions. Rappelez-vous ce que j'ai dit qu'en citant Paul Graham, ils viennent vers vous. Vous n'avez pas besoin de les chercher, ils viennent vers vous. On est obligé de les chasser plutôt. Rappelons-nous que notre raison d'être sur terre, c'est avant tout d'être la lumière du monde. Personne d'autre ne sera la lumière du monde. C'est l'Église de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Les gouvernements ne pourront jamais faire ce que notre mission nous permet de faire. Alors, durant cette prédication, beaucoup, certainement, ont pensé, tiens, ça nous a fait du bien, merci André. Mais, peut-être que pour une personne ou deux parmi vous, votre réflexion est allée plus loin. André, je pense que j'ai été distrait de cette mission. Dorénavant, je chasserai les distractions autant qu'il m'est permis. Je voudrais m'engager auprès de Dieu pour être cette lumière partout où je suis, la lumière du monde dans lequel je me trouve. Je voudrais que ton salut, qui t'a coûté si cher, soit connu. Il mérite d'être connu. Si les gens l'acceptent ou pas, ton œuvre sur la croix mérite d'être connue par tout le monde. Et c'est pour toi que je vais le faire. Si Dieu vous a parlé un peu dans ce sens, je voudrais prier pour vous, parce que je crois à la prière. Et je vais demander qu'à la conclusion de ma prière, toute la congrégation dise Amen pour que tout le monde puisse appuyer cette prière en votre faveur. Si Dieu vous a parlé de façon à ce que vous êtes en train de prendre un engagement dans l'intérieur de votre être, je voudrais prier pour vous. Et dans ce cas, pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, nous voulons respecter la qualité privée de votre décision spirituelle. Levez la main discrètement et baissez-la et dites, André, pensez à moi. Oui, merci. Oui, merci. Oui. Merci bien. Oui. Encore. Merci. Vous pouvez baisser la main. Merci bien. Merci. Une dernière personne? Oui, Oui, merci, merci. Je voudrais aussi prier pour vous si vous n'avez pas ce qu'on appelle la sécurité éternelle, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr que si vous deviez, par accident, mettre un arrêt, la vie devait disparaître, votre vie devait disparaître, comme cette chère sœur dont on a parlé ce matin, qui, il y a quelques semaines, était bien, mais aujourd'hui n'est plus. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Je ne voudrais pas être morbide, mais ça serait dommage que vous ne soyez pas au paradis de Dieu. Vous dites, André, je ne suis pas sûr que s'il m'arriverait quelque chose aujourd'hui, je serai au paradis de Dieu. Pensez à moi aussi dans la prière. Je veux le faire. Levez votre main discrètement et baissez-la. Je voudrais prier pour vous. Oui, merci. Oui, merci bien. Oui, merci. Encore quelqu'un ? Très bien. Je vais prier et à la conclusion de la prière, vous appuierez cette prière en disant « Amen » et nous soutiendrons tous ceux qui se sont sentis concernés et convaincus au point où ils dépendent maintenant de nos prières. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, elle nous éclaire sur des choses véritablement pratiques. Et Seigneur, moi le premier, je te demande de me garder constamment conscient de cet appel à être une lumière, un témoin là où je suis. Et ce que je prie pour moi, je prie pour chacun qui a levé la main. Seigneur, que ça soit un pas décisif dans leur vie chrétienne. Et qu'ils déterminent très rapidement comment ils vont changer leurs habitudes pour ne pas être distraits, ou du moins pas autant. Et puis Seigneur, je te prie pour ceux qui ont levé la main parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être recueillis dans ton paradis. La Bible nous enseigne que c'est possible d'avoir cette sécurité. Pas que nous pouvons la mériter, non, jamais. Mais nous pouvons recevoir la vie éternelle. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux spirituels de ces personnes, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que tu les sauves et qu'ils se renseignent auprès de quelqu'un d'entre nous pour avoir la réponse à cette question et qu'éventuellement, Seigneur, ils se dirigent vers toi. Sauve-les, je te le demande. Et maintenant, ces prières, Seigneur, nous te les disons tous dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.
Amen.